Bonsoir à tous. À moins d'un mois du premier tour, face au sondage, les partis sont appelés à se prononcer sur les dilemmes de l'entre-deux-tours. Que faire en cas de triangulaire pour la liste? Arriver troisième dans les régions où le Front National peut l'emporter? Maintenir sa liste et se voir reprocher d'avoir favorisé la victoire du parti de Marine Le Pen? Se désister en se fermant définitivement la porte du Conseil Régional pour 6 ans? Nini, où tout devra être fait, tandis que les Républicains refusent de s'allier au Parti Socialiste, Manuel Valls a réaffirmé ce matin que la gauche prendrait ses responsabilités pour contrer le Front National dans ses conquêtes régionales. Faire front, front contre front, le Front Républicain, après les derniers scrutins, municipales, les départementales, on le disait mort, ce front inutile, une rustine. Depuis quelques jours, le Premier ministre l'a ressuscité. Alors quel sens a-t-il pris par le passé? Le Front Républicain a-t-il encore un avenir? Régional, les scénarios de l'entre-deux-tours et au-delà avec nos invités. Jean Garrigue, tout d'abord, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université d'Orléans, spécialiste d'histoire politique et de la Ve République. Installé à Marseille, où la gauche est donnée perdante après 18 ans à la tête de la région PACA, Joël Gombin est aussi parmi nous. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Politiste, chercheur associé au Sherpa, Centre de recherche de Sciences Po Aix, collaborateur de la Fondation Jean Jaurès, vous venez de signer une contribution sur le vote Front National dans un ouvrage collectif paru la semaine dernière aux presses de Sciences Po, Les faux-semblants du Front National, sociologie d'un parti politique. Un front républicain en PACA pour le Parti Socialiste, pour le candidat du Parti Socialiste, la question aujourd'hui ne se pose pas. En duplex de Lille, autre région où le Front National mené par Marine Le Pen pourrait l'emporter, Pierre Mathiot, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Professeur des universités en sciences politiques, coordinateur des réseaux de Sciences Po Lille, initiateur de l'appel citoyen aux femmes et aux hommes de bonne volonté pour une alliance des gauches, PS, Europe Écologie Les Verts, Parti Communiste, dès le premier tour pour faire barrage au Front National. Vous nous direz pourquoi cet appel et s'il a été entendu ou pourquoi malheureusement il ne l'a pas été. On est ensemble jusqu'à 19h sur France Culture, bien sûr, mais vous pouvez aussi nous aimer sur Facebook ou nous suivre sur Twitter, hashtag et après.
Dimanche et après, Olivier Jespère.
Que le Front National gagne une, deux ou trois régions, bien sûr que ce serait un drame. Les Républicains, ceux qui aiment la France, ceux qui aiment la République et les valeurs, jamais, jamais ne laisser passer le Front National. Ça serait trop grave. Et donc, ils devront se rassembler. Parce que dans ces moments-là, il faudra être désintéressé. Le Nini le renvoie dos à dos et irresponsable.
Dès le départ, hein, nous on avait mis en avant le fait qu'il y avait des transactions secrètes entre l'UMP, l'ex-UMP et les socialistes. Moi je suis très choquée par ce genre de propos parce que c'est pas au Premier ministre de la France d'estimer qui a le droit ou non d'accéder à ce type de mandat. Et je suis d'autant plus étonnée que je crois que Manuel Valls devrait plutôt se concentrer à essayer de régler les problèmes qu'il faut qu'aujourd'hui ils ne sont plus crédibles et que les Français se tournent vers nous, plutôt que de créer des grandes coalitions pour empêcher le Front National d'arriver au pouvoir.
Et après avoir été désigné comme l'adversaire quotidien, régulier, indestructible de M. Hollande, voilà que vous me prêtez des intentions avec lui. Non, non, ni de rapprochement, ni de fond républicain. Chacun prendra ses responsabilités et analysera les résultats au premier tour.
Aujourd'hui, on se bat pour sortir en tête au premier tour. Voilà, on se bat parce que la droite veut défaire ce que l'ensemble de la gauche a fait dans les régions et l'extrême droite veut défaire la République. On met pas sur le même plan, mais c'est un combat, c'est notre face au Nini.
Là où il y aura un risque majeur d'avoir le Front National à la tête de ces régions, il faudra se retirer.
Je pense que c'est effectivement une folie. Pourquoi? Parce que elle exprime le mépris, c'est vis-à-vis des électeurs qui ont voté non Front National. Ils ont voulu exprimer quelque chose et on peut pas leur dire à partir du moment où le Front National est autorisé à concourir dans les élections de la République, on peut pas leur dire nous ferons tout, nous les autres partis, pour faire en sorte que votre vote n'ait jamais aucune conséquence ni sur les législatives, ni sur les élections locales.
C'est une position sectaire, c'est une position cynique, c'est une position irresponsable. Parce qu'il faudra bien que les Républicains, d'une façon ou d'une autre, se rassemblent et dans le Nord-Pas-de-Calais et dans la région PACA et peut-être dans d'autres régions pour faire front contre le Front National.
Je ne suis pas sûr que faire du Front Républicain une stratégie nationale soit une bonne idée. Je me demande même si ça n'alimente pas d'une certaine manière la propagande du Front National, qui veut mettre l'UMP et le PS dans le même sac, hein, vous savez, tous pourris.
Un assemblage de réactions politiques de la gauche et notamment du Parti Socialiste jusqu'aux Républicains, avec même la voix de Marion Maréchal Le Pen. Pour le Front National, ne nous manque plus que Jean-Luc Mélenchon du Front de Gauche, qui lui s'est aussi exprimé contre le Front Républicain, le qualifiant d'escroquerie. Jean Garrigue, littéralement faire Front Républicain contre le Front National, est-ce à dire que le parti de Marine Le Pen n'est pas républicain ?
C'est toute la question. Sur le plan scientifique, objectif, au fond, ça ne tient pas, cette histoire d'un front républicain, c'est-à-dire un front de ceux qui détiendraient les valeurs et les pratiques de la République. On ne peut pas dire aujourd'hui, objectivement, que le Front National soit en dehors de cet espace républicain. En tout cas, ça n'est pas ce qu'il revendique. Et un deuxième aspect, qui est un aspect, j'allais dire, culturel, c'est-à-dire qu'on pourrait considérer que le Front Républicain réunirait ceux qui incarneraient, qui représenteraient une sorte de tradition d'adéquation aux valeurs et aux pratiques républicaines. Et en cela, le Front National, avec le passé qui est le sien, les origines qui sont les siennes et qui parfois ressurgissent à travers un certain nombre de discours militants, peuvent effectivement être rejetés hors de la sphère républicaine, si tant est qu'on définisse cette sphère à travers un certain nombre de valeurs, de règles, etc. Et les historiens, les politistes, les journalistes, depuis deux siècles, réfléchissent sur cette notion de république. Alors ça pose quand même un problème.
Joël Combin, mobiliser en effet les valeurs de la République à travers ce terme, ça implique quoi ? Un positionnement moral finalement, plus que politique, là où en réalité seul prévaut dans la tête des partis la tactique électorale ? Il y a un mélange des genres ?
Oui, je crois qu'il y a un mélange des genres et je pense qu'il y a un paradoxe qui tient à ce que plus on utilise le terme de républicain et moins on le définit. On l'a vu encore ces derniers mois avec le changement de nom de l'UMP qui s'appelle désormais les Républicains, ce qui rend le débat encore plus compliqué. Donc effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Jean Garrigue que à partir du moment où on ne définit pas ce qu'on met dans ce terme de républicain, la question du Front Républicain est renvoyée à une sorte de réflexe mi-moral, mi-identitaire, mais dont le contenu politique est extrêmement flou, parce que on y reviendra sans doute, mais le terme même de Front Républicain est très ambigu sur qu'est-ce qu'il signifie. Est-ce que c'est une alliance? Est-ce que ce sont des retraits? Est-ce qu'on parle du premier tour? Est-ce qu'on parle du deuxième tour? Est-ce qu'on parle du troisième tour lorsqu'il s'agit de faire des coalitions dans des assemblées élues? On ne sait pas très bien. Donc on y reviendra, mais je crois effectivement qu'il s'agit d'une forme de réflexe qui n'est pas toujours très bien réfléchi.
Pierre Mathiot, cette alliance de circonstances entre la gauche et la droite, est-ce que quelque part on ne peut pas dire qu'elle fausse le jeu démocratique ?
Écoutez, je pense d'abord que c'est l'affolement général et que comment dire, surtout la gauche, d'ailleurs en l'occurrence la gauche socialiste, c'est surtout le PS aujourd'hui qui parle de Front Républicain, les autres partis n'en parlent pas, en tout cas pas publiquement. Je pense que c'est d'abord le signe d'un très grand affolement qui amène à parler de Front Républicain, alors qu'effectivement, comme viennent de le dire mes deux collègues, ça n'a pas beaucoup de sens par rapport à, disons, à une projection historique de cette notion, de ce concept, je sais pas comment on peut l'appeler. Effectivement, moi vu de Lille, mais je crois que c'est la même chose à Marseille. C'est peut-être la même chose à Strasbourg, Metz, Reims bientôt. Je crois que c'est les partis politiques dits de gouvernement et surtout le PS en ce moment sont en train de chercher des formules qui peuvent peut-être leur faire espérer l'empêchement de la victoire du Front National dans quelques régions en France en décembre prochain. Et je pense que, comment dire, c'est quelque chose qui ne marche pas pour une raison très simple qu'on évoquera probablement un peu plus longuement plus tard dans le débat, c'est que la référence aujourd'hui à la nécessité de se désister, de ne pas se maintenir, etc., ne marche plus. Hein, c'est-à-dire que si au moins ça marchait. Mmh. C'était efficace de retirer des listes de gauche, par exemple, pour faire gagner un candidat des Républicains ou des listes de droite pour faire gagner un socialiste, ça aurait peut-être du sens qu'on en débatte vraiment et qu'on cherche à vraiment à comprendre ce que c'est qu'un Front Républicain, mais on sait bien, et Joël Gombin avait travaillé là-dessus sur l'élection législative qui avait eu lieu dans le Doubs cette année, montre bien qu'au deuxième tour, les électeurs, disons, de droite classique ne se reportent plus tant que ça sur la gauche et vice-versa. Donc on est, vous voyez, dans une espèce de piège qui est en train de se refermer, c'est-à-dire de partis de gouvernement qui cherchent à invoquer un petit peu les mannes, là, à faire peur, à dire que ce serait un drame.
Donc quels que soient en fait les mots d'ordre des partis, effectivement, les électorats de gauche et de droite ne sont pas de leur côté forcément acquis de toute façon à la discipline républicaine. Mais vous avez dit une chose intéressante, vous dites que pour l'instant les partis, notamment le Parti Socialiste, cherchent des formules qui empêcheraient le Front National de conquérir là où les régions en question, alors qu'ils devraient peut-être plutôt, d'après vous, chercher des formules qui empêchent leur défaite. Oui, au cordon sanitaire, ce matin encore Manuel Valls sur Europe 1 a appelé à tout faire pour empêcher le Front National de conquérir des régions. Un drame, selon lui. Le Premier ministre reste en revanche assez flou hein, sur la méthode. Désistement de la liste arrivée troisième en vue du second tour ou fusion des listes de gauche avec celle du centre et de la droite. Fusion grande coalition hein, que Jean-Marie Le Guen a déclaré cet après-midi ne pas exclure. Pierre Mathiot, vous, en tant que citoyen lillois, co-auteur, initiateur d'un appel qui visait à réunir la gauche plurielle, on va dire, au premier tour sur des listes communes. Si la liste de Marine Le Pen arrive en tête au premier tour, quel scénario vous soutiendriez ?
Bah, moi j'avais tenté de faire mon Lionel Jospin hein, de 97, c'est-à-dire avant l'été, avec quelques amis, on avait très simplement fait le constat, mais très simple, hein, que si la gauche n'était pas unie au premier tour, et là j'allais dire toute la gauche, hein, y compris le PS, puisque quand je dis y compris le PS, il faut quand même savoir qu'une partie de la gauche considère que le PS n'est plus à gauche, mais que si la gauche n'était pas unie dès le premier tour, dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, elle arriverait immanquablement au troisième, quatrième, cinquième du premier tour, et donc elle serait sous la pression de ce fameux Front Républicain dont on vient de parler. Et ça n'a pas marché, évidemment, vous l'avez évoqué à demi-mot dans votre présentation, ça n'a pas marché, ça n'a même pas dû marcher du tout, puisque finalement il y a trois listes de gauche qui se présentent dans cette région. Alors si vous me demandez mon analyse, disons, de politiste matinée de positionnement citoyen, au moment où je vous parle, je ne vois pas comment empêcher, entre guillemets, la victoire de Marine Le Pen, qui est candidate en plus dans cette région, donc il y a évidemment une force liée à sa personnalité. Je ne vois pas comment on peut donc empêcher la victoire de Marine Le Pen si au deuxième tour il y a autre chose qu'un duel. S'il y a une triangulaire, toutes les enquêtes d'opinion, même si elles sont sujettes à caution, toutes les enquêtes d'opinion jusqu'à aujourd'hui montrent que, dans le cas d'une triangulaire, au deuxième tour, le Front National arrive dans cette région au moins 5-6 points devant la liste qui arrive deuxième. Bon, donc ça ne peut être qu'un duel, et j'ajoute tout de suite que même si c'est un duel, c'est-à-dire même si les forces de gauche se retirent après le premier tour, un duel, au moment où je vous parle, ne garantit pas la défaite de Marine Le Pen, puisqu'une enquête d'opinion récente a montré que Marine Le Pen, dans un sondage, l'emportait en duel face à Xavier Bertrand. Pourquoi ? Parce que le Front Républicain ne marche pas, ne semble pas marcher, qu'en l'occurrence, elle gagnerait parce qu'une part non négligeable des électeurs de gauche du premier tour n'irait pas voter pour Xavier Bertrand au deuxième tour. Donc il y a un véritable piège. Et alors j'ajoute une chose quand même, vous avez dit... triangulaire, retrait de la liste arrivée troisième. N'oubliez pas qu'il peut advenir, notamment dans la région où je suis ici, mais également en PACA ou dans d'autres régions, que la liste arrivée quatrième fasse plus que 10% des voix et décide de se maintenir si éventuellement le PS se retirait. Hein, ici, dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, vous avez une liste Europe Écologie Parti de Gauche qui peut faire plus de 10% et qui n'a pas encore annoncé très très clairement qu'elle se retirerait si elle arrivait quatrième. Et dans ce cas-là, et on n'en parle pas beaucoup actuellement, le Parti Socialiste, en se retirant, purement et simplement, se retrouverait chez nous, mais ailleurs en France, dans des situations où il s'éliminerait du paysage politique pendant 6 ans. Il n'aurait plus d'élus du tout pendant 6 ans dans l'Assemblée régionale, alors que déjà il a essuyé pas mal de pertes au municipal et au départemental, et éventuellement il ne serait plus présent, alors que peut-être un parti ou des partis plus à gauche que lui seraient eux représentés dans l'Assemblée régionale. Vous voyez,
on imagine le résultat d'un tel choix politique. Ça veut dire que trois régions hein, sont particulièrement ciblées aujourd'hui et concernées. Ça veut dire que 6 ex-régions sur 22 ex-régions pourraient demain ne plus avoir aucun conseiller régional socialiste. Jean Garrigue, il faut reconnaître à Manuel Valls quand même un effort de clarté là où de nombreux responsables de gauche comme de droite jouent l'ambiguïté hein, et temporisent tant que faire se peut. Mais en affichant la couleur à 5 semaines du premier tour, est-ce que le chef de la majorité n'a pas aussi acté un peu tôt les défaites à venir de son camp, ce qui n'est pas très mobilisateur pour ceux qui battent campagne dans les régions? C'est ce que lui reproche aujourd'hui la ministre Ségolène Royal. Les stratégies électorales se déterminent au soir du premier tour, a-t-elle mis en garde. L'anticipation de la défaite avant le premier tour est insupportable. Alors, que redoute aujourd'hui Manuel Valls, le Parti Socialiste, de se voir reprocher en fait, d'avoir fait un jour le jeu du Front National en maintenant ses listes, si elles arrivent en troisième position?
Alors, c'est ma conviction. Je pense qu'au fond, de ce qui se joue en ce moment, avant ce premier tour, et qui, de manière objective, apparaît comme un très mauvais calcul stratégique de la part des socialistes, savoir anticiper une défaite au premier tour. Ma conviction, en tout cas l'analyse qu'on peut faire, c'est que cette stratégie-là, au fond, anticipe précisément, non pas le premier, mais les lendemains du second tour, c'est-à-dire ce qui va venir après. C'est-à-dire qu'au fond, il s'agit de se positionner précisément par rapport au Front National et par rapport aux Républicains. J'ai toujours du mal à donner ce titre pour les forces de droite, enfin en tout cas ce que représente aujourd'hui la droite républicaine. Donc il s'agit de se positionner et de désigner en fait ceux qui seront véritablement les coupables, les responsables de la victoire du Front National. Il s'agit au fond d'une stratégie de disculpation hein, des socialistes, marginalement aussi éventuellement de stigmatisation, mais on est plus dans cette perspective-là, me semble-t-il, à long terme, c'est-à-dire qu'on voit au-delà, on voit vers 2017, on pense à affrontement nécessaire du deuxième tour entre un candidat socialiste et le Front National, et voilà pourquoi on focalise sur le Front National, et voilà pourquoi on anticipe, je le répète, ce que sera le résultat du premier tour.
Et Joël Gambin, il faut effectivement se rappeler que dans l'histoire, il est arrivé au Parti Socialiste de se voir reprocher d'avoir instrumentalisé quand même le Front National. Donc cette critique ou la peur de cette critique en instrumentalisation, elle a quand même aussi des racines dans le passé.
Oui, on peut voir les choses comme ça. Mais moi, je voudrais souligner que, précisément, vous avez dit Manuel Valls, chef de la majorité. Certes, mais sauf que la majorité socialiste n'est pas unie sur cette question-là. Et lorsque Manuel Valls, il y a encore quelques jours, a dit il faudra faire tout ce qui sera nécessaire pour faire battre le Front National, immédiatement, Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du Parti Socialiste, a répondu « Non, il n'en est pas question. Aujourd'hui, les Républicains se sont trop rapprochés du Front National pour qu'on puisse envisager de se désister en leur faveur pour les faire élire. » Et c'est un débat qui traverse
le Parti Socialiste. Il a déjà mis un petit peu d'eau dans son vin depuis.
Oui, il a mis un peu d'eau dans son vin. Mais c'est un débat qui traverse le Parti Socialiste en réalité depuis des années. Et le Parti Socialiste a constamment hésité entre deux positions. L'une qui est de dire... les Républicains, autrefois l'UMP, sous l'influence de Nicolas Sarkozy depuis 2005-2006, se sont tellement rapprochés des positions du Front National qu'il n'est pas possible de se rapprocher et de les préférer au Front National. Et puis l'autre qui consiste effectivement à dire il faut faire battre le Front National à tout prix. Et moi, je pense que ces différences, elles obéissent bien sûr à des positionnements idéologiques au sein du Parti Socialiste, selon qu'on est plutôt proche de Valls ou plus proche de la gauche du parti, on appréciera les choses différentes. Mais je pense aussi qu'elles obéissent à des positionnements qui doivent au calcul stratégique de chacun. Et que lorsque Manuel Valls dit, et c'est pas la première fois, il avait déjà fait lors des élections départementales très nettement, lorsqu'il fait du Front National l'enjeu central du scrutin, lorsqu'il dit il faudra que toutes nos stratégies aient pour objectif premier de faire battre le Front National. Il pourrait y avoir d'autres objectifs. Je pense qu'il prend date, non seulement pour le lendemain du second tour de l'élection, là-dessus je suis d'accord avec Jean Garrigue, mais aussi à moyen terme, pour la construction de sa carrière personnelle, la construction de son image personnelle comme premier rempart face au Front National.
Image dont visiblement... Oui, pardon, Jean-Garrigue.
Oui, non, bien sûr, je souscris totalement. D'autant plus que précisément cette image de Manuel Valls s'est construite autour précisément de cet attachement aux valeurs de la République, à l'héritage républicain, voire ses références à Georges Clemenceau par exemple. Donc on est typiquement là dans une instrumentalisation stratégique personnelle, hein, mais qui en l'occurrence, là, recoupe aussi la stratégie de François Hollande pour 2017.
Alors, image donc qu'essaye de s'accoler peut-être Manuel Valls, mais qu'on ne retrouve pas forcément à droite. Pourquoi cette peur de se voir englobé dans cet épouvantail de l'UMPS, peut-être, ou d'entendre le Front National crier au complot? Si les responsables nationaux socialistes commencent à envisager le Front Républicain, c'est un scénario qui, pour les Républicains, est complètement exclu, hein, jusqu'ici même parmi les voix plus modérées comme celle d'Alain Juppé. Ni alliance avec le Front National, ni rapprochement avec le Parti Socialiste, contrairement au régional de 98. Hein, on notera déjà que la droite n'envisage pas d'alliance au cas par cas du tout avec le FN. Avec la gauche, les Républicains ont d'ores et déjà annoncé qu'ils n'entendaient pas rendre l'appareil. Est-ce que c'est une bonne stratégie?
En tout cas, la position d'Alain Juppé me paraît un peu plus nuancée que ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que, et ça c'est quelque chose qui est aussi caractéristique de l'histoire de la droite républicaine depuis les années 80, c'est-à-dire qu'il y a aussi là beaucoup de fluctuations et beaucoup d'adaptations au cas par cas et au coup par coup. On a vu précédemment d'ailleurs qu'Alain Juppé a pu souscrire à cette stratégie du Front républicain. Aujourd'hui, l'intérêt de la droite républicaine, des républicains, n'est pas d'aller dans le sens de ce Front républicain, puisque de toute manière, les élections régionales qui vont venir vont plutôt être positives pour eux et parce que toute une partie de leur électorat ne comprendrait pas une stratégie de diabolisation du Front National. Bon, c'est évidemment l'une des caractéristiques de l'évolution de l'électorat de la droite depuis une dizaine d'années, que cette acculturation d'un certain nombre de thématiques du Front National. Donc franchement, là, il y aurait quelque chose de totalement contre-stratégique pour la droite.
Oui, juste rappelons qu'Alain Juppé, lors de la législative partielle dans le Doubs cette année, avait appelé à faire barrage.
Exactement.
Au Front National. Donc il est quand
Exactement.
Même plus ambigu aujourd'hui.
Voilà.
On n'a pas de prise de position claire. Pierre Mathiot, là où vous êtes dans le Nord-Pas-de-Calais, Picardie, est-ce qu'un appel en ce sens des Républicains à former un Front Républicain, alors soit sous la forme du désistement ou de la fusion des listes, est envisageable? Et est-ce que ça pourrait faire changer les choses selon vous?
Alors, d'abord, il ne faut pas oublier que les élections, le deuxième tour a lieu une semaine après le premier, et que donc il n'y a que 2 jours pour fabriquer les nouvelles listes. Hein. Et ça, c'est un élément qu'il faut avoir complètement en tête dans un contexte de COP21, de présence des médias mondiaux un peu partout, et probablement à Lille, qui n'est qu'à 1 heure de train de Paris. Donc il y a quand même des configurations très particulières qu'il faut avoir en tête. Xavier Bertrand, donc, qui est la tête de liste régionale pour l'UMP, l'UDI, le MoDem, donc qui a réussi la performance d'avoir le MoDem et l'UDI avec lui dès le premier tour, alors que Xavier Bertrand n'incarne pas nécessairement la partie centriste de l'ex-UMP. Xavier Bertrand a toujours fait savoir qu'il était contre la fusion des listes, et vous avez noté qu'à peu près partout on n'évoque pas la fusion des listes, parce que, comme ça a été dit tout à l'heure, la fusion des listes, c'est donner encore plus crédit au discours classique du Front National sur l'UMPS. Si on fusionne des listes ou dans lesquelles on retrouverait des Républicains, des MoDem, des UDI, des socialistes, des écolos, des communistes, etc., ce serait la confirmation totale, la validation totale de la pertinence du discours de Marine Le Pen depuis de nombreuses années, et dans la perspective de 2017, ce serait la catastrophe.
Donc moi, j'ai ça éviterait quand même la stratégie suicidaire qui consisterait à se retirer complètement et donc d'avoir aucun conseiller régional pour le PS.
Oui, vous avez raison. Là, c'est l'attente. Effectivement, quand vous discutez avec des élus socialistes qui ils sont un peu coincés entre le fait de se dire oh là là, on va disparaître purement et simplement de l'Assemblée régionale, on va plus avoir de mandat, donc parfois on va même plus avoir de métier. Donc c'est cette problématique-là. Puis en même temps, en tout cas, Xavier Bertrand est contre cela. Alors comme ça a été dit juste avant, pourquoi? Parce que je pense que dans notre région ou dans d'autres d'ailleurs, les Républicains, donc on va dire la droite de gouvernement, parce qu'il y a aussi l'UDI et le MoDem, souvent considèrent que cette question du Front républicain n'est pas leur problème, finalement. Hein. C'est le problème du PS aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les Républicains vont arriver souvent devant le PS au premier tour, et donc ils ont tout intérêt très simplement à attendre que les socialistes se retirent, et que se retirant, il y a une espèce de message subliminal qui soit adressé à leurs électeurs, de dire écoutez, comment on se retire? On se retire pour faire barrage au Front National, donc allez voter pour la droite. Donc le problème de Xavier Bertrand ici, plutôt, c'est moins un problème de désistement, en tout cas des socialistes, me semble-t-il, qu'un problème de report des voix des électeurs de gauche du premier tour vers lui au deuxième tour, parce que c'est quand même Xavier Bertrand, hein, c'est pas, vous voyez, on a fait le choix d'un candidat UMP, enfin républicain un peu particulier, qui est secondé par des centristes. Il y a énormément de centristes dans ces équipes de campagne, mais Xavier Bertrand a quand même un positionnement au sein des Républicains qui est un positionnement plutôt à droite, et donc évidemment il y a énormément d'électeurs de gauche aujourd'hui qui ne sont absolument pas prêts à aller voter pour Xavier Bertrand au deuxième tour, y compris avec la menace, la possibilité forte que Marine Le Pen l'emporte. Et ça, c'est quand même un changement dans les logiques de Front Républicain, entre guillemets, depuis quelques années. C'est que il y a quelques années, la menace du Front National, rappelez-vous Jean-Marie Le Pen en 2002, la menace avait fait que, y compris les communistes, en masse, étaient allés voter Jacques Chirac. Aujourd'hui, quand vous discutez avec des électeurs, disons, de, y compris socialistes, mais aussi, bien sûr, écolos, communistes, partis de gauche, une part non négligeable, et à mon avis majoritaire d'entre eux, disent qu'il est hors de question d'aller voter pour Xavier Bertrand, alors même que la possibilité de la victoire de Marine Le Pen est forte.
Joël Combat.
Oui, par rapport à ce que vient de dire Pierre Mathieu, il est certain que nous ne sommes plus dans la situation de 2002 où un candidat de droite face au FN obtiendrait plus de 80% des voix. Mais je modérerai un tout petit peu ce que vient de dire Pierre Mathieu. Si on regarde les dernières élections départementales où on était dans une configuration un peu comparable puisque Manuel Valls avait en amont fait un cadrage très autour du Front National, du Nestère, Front Républicain, etc. Et même si je n'oublie pas que le mode de scrutin n'est pas exactement le même. Ce qu'on avait vu aux élections départementales, c'est quand même que le report des voix de gauche sur les candidats de droite traditionnels face au FN était bon. Ils étaient supérieurs à ceux que moi, personnellement, je m'attendais à voir. Et ils ont permis très largement la victoire des candidats de droite face au FN, ce qui explique pourquoi on a un FN qui est très haut au premier tour de cette élection, de ces élections départementales, et qui finit avec une quarantaine de cantons seulement dans son escarcelle. Donc je pense que ces élections régionales vont être extrêmement intéressantes à observer pour voir si, malgré tout, cette mobilisation d'une partie de l'électorat de gauche contre le FN se maintient, ou si effectivement, comme semble l'annoncer Pierre Mathieu, elle s'effondre, ce qui serait révélateur pour la perspective de 2017.
Le Front Républicain.
Si je peux juste, pardon.
Oui, Pierre Mathieu.
Glisser, je suis assez d'accord, hein, mais comme d'habitude, la question est, est-ce que les élections départementales, on peut les dupliquer sur les élections régionales, voyez-vous? C'est-à-dire que je crois que si on prend donc toujours la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, que Joël Gombin connaît très très bien, hein, puisqu'il a beaucoup travaillé sur la Picardie notamment, c'est que...
Oui, il a enseigné à l'université de Picardie.
Voilà. Hein. Donc les départementales, c'est quand même des élections où, bon, il y a de la notoriété, mais par exemple, pour les candidats Front National, on votait pour l'étiquette, beaucoup. Alors que là, ici, c'est Marine Le Pen, quand même. Donc même c'est Marine, hein, vous savez. Première remarque. Et deuxième remarque, depuis les élections départementales, il vous a pas échappé que la situation politique générale s'est encore, entre guillemets, dégradée pour les partis de gouvernement. Je fais référence aux réfugiés, je fais référence à ce qui se passe à Calais, dans la région dans laquelle je suis, etc. Donc la situation, qui était déjà quand même relativement déliquescente au moment des départementales, ne s'est pas du tout améliorée, et que donc la perception qu'ont les électeurs de la situation est une perception encore plus dégradée par rapport au moment des départementales.
Voilà, trois figures fortes, hein, Marion Maréchal Le Pen en PACA, Marine Le Pen effectivement en Nord-Pas-de-Calais, Picardie, et puis Florian Philippot, Alsace, Lorraine, Champagne, Ardennes, trois régions qui pourraient basculer du côté du Front National au soir du second tour, et qui posent donc un certain nombre de questions d'ores et déjà aux partis dits de gouvernement, aux partis socialistes et aux républicains dans leur stratégie de l'entre-deux-tours. Le Front Républicain, un mythe, une ritournelle, soit, mais une bonne stratégie. La discussion se poursuit jusqu'à 19h avec les politistes Joël Gombin et Pierre Mathieu et l'historien Jean Garrigue.
C'est pas facile de se faire un beau jour lâché, de perdre prise, de se sentir tomber. On pensait que tout était bien fixé, mais voilà que le sol se met à trembler. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Je pensais qu'on était parti pour des années, comme le boulot que je venais de trouver. Mais là-bas, toi, ne veux plus embaucher. Il ne me reste plus qu'un seul projet. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Ouais. De l'amour, de l'amour, de l'amour. Je sens
de l'amour, le retour des icônes. Alors qu'Alain Delon souffle aujourd'hui ses 80 bougies, Johnny Hallyday revient vendredi avec un nouvel album, un 50e album de l'amour. En prise, dit-il, avec son temps, les migrants, les violences policières aux États-Unis, l'attentat de Charlie dans un dimanche de janvier. De l'amour, le rocker dit en avoir à revendre pour désaggraver ses drames, c'est son mot, c'est-à-dire ne pas laisser la haine s'installer. France Culture, 18h45.
France Culture, dimanche et après. Olivia Jesper.
Joël Gombin, il y a les stratégies nationales, on les a évoquées. Il y a aussi les réticences locales. Un front républicain en PACA pour le candidat socialiste. La question ne se pose pas. Il a renouvelé ses propos ce week-end. Après 18 ans à la tête de cette région, la liste PS arrive pourtant troisième loin derrière la liste menée par Marion Maréchal Le Pen et l'alliance Les Républicains, UDI et Modem. Une position qui se comprend finalement. On l'a évoqué, se désister, c'est accepter de disparaître complètement des conseils régionaux au profit de la droite et de l'extrême droite. Ce serait pratiquer la politique de la chaise vide, déplorait aussi sur le fond un candidat Europe Écologie Les Verts au municipal l'an passé à Cavaillon. Est-ce que ce front républicain vous semble aujourd'hui en PACA aussi contre-productif, si tant est qu'il arrive ?
Oui, d'une certaine manière, il est contre-productif dans le sens où il contribue à faire advenir la configuration politique qui est celle que Marine Le Pen cherche à imposer, c'est-à-dire celle d'un Front National qui serait radicalement différent de ses opposants tous confondus. Et donc, si on dit on est prêt à sacrifier jusqu'à sa propre existence politique pour faire battre le Front National, on renforce cette idée, on accrédite cette idée que c'est le FN contre tous les autres. Donc, à court terme, il est possible qu'on fasse battre le FN. Ça a été le cas très largement au départemental, je le disais. Mais par contre, à moyen terme, il faut s'interroger sur les effets que produisent ce type de prise de position. Ça peut marcher une fois, ça peut marcher deux fois, mais combien de temps faudra-t-il pour que les effets cumulatifs de ce type de position finissent par faire que le FN pourra l'emporter seul dans un très grand nombre d'endroits? Pierre Mathieu signalait à très juste titre que on a aujourd'hui des sondages qui, en Nord-Pas-de-Calais-Picardie, indiquent que même en duel face à Xavier Bertrand, Marine Le Pen pourrait l'emporter avec une majorité absolue. Donc, or, toute cette discussion sur le front républicain ne peut pas se faire sans qu'on garde en tête la question des institutions et du mode de scrutin, qui est une question centrale et qui est d'autant plus importante qu'on a un imaginaire du Front républicain qui est bâti sur des institutions parlementaires avec un scrutin proportionnel. Donc dans une situation qui n'a rien à voir. Or, aujourd'hui, toute la question est à quel moment le Front national peut l'emporter dans des scrutins majoritaires, soit avec une majorité relative, c'est le cas des proportionnels, soit avec une majorité absolue. Et donc, on voit bien d'ailleurs que, je signale, que le mode de scrutin pour les régionales a été modifié après 1998 pour rajouter une prime majoritaire pour la liste arrivée en tête, précisément pour éviter d'avoir à se poser la question des alliances avec le FN qui avait empoisonné les régionales de 98. Or, aujourd'hui, on voit bien que cette règle se retourne contre ses initiateurs et qu'elle va permettre ou qu'elle pourrait permettre au FN de l'emporter en triangulaire dans un certain nombre de régions.
Ah bah je vous renvoie à la question, Jean-Garic, puisque c'est aussi vous, le spécialiste ici des institutions de la 5e, de la bipolarisation de la vie politique à sa tripartition, au tripartisme. Cette nouvelle donne associée effectivement à la logique majoritaire qu'évoquait Joël Gombin de la 5e République, est-ce qu'elle rend peu viable, alors pas le Front National, mais le Front républicain?
Fondamentalement. Alors il faut se souvenir que le Front républicain, à l'origine, historiquement, c'est cette coalition de 1956. Le nom a été forgé par Jean-Jacques Savant-Schreiber, coalition de la gauche, qui se réfère d'ailleurs à un front de gauche.
Alors d'autres renvoient ses origines à 36.
Hein. Oui, mais l'expression Front républicain, c'est pas 1936. La défense républicaine, le réflexe de défense ou de concentration républicaine, c'est beaucoup plus ancien. Et c'était d'ailleurs un réflexe de gauche, hein, qui n'incluait pas les droites. Eh bien, ce réflexe-là,
c'était limité au parti de gauche.
Hein. Mais le Front républicain, et c'est là que je veux en venir, celui de 1956, c'est un Front républicain qui s'adapte à un système parlementaire. Ce que le général de Gaulle dénonçait comme le régime des partis, le système des partis, mais c'est un régime qui peut se prêter à ce type de rassemblement, à ce type de front. Encore faut-il réfléchir sur ce que représentait d'ailleurs ce front républicain face d'un côté aux communistes et de l'autre aux poujadistes et aux gaullistes. Mais En l'occurrence, la bipolarisation de la vie politique sous la Ve République, elle est finalement totalement contradictoire, totalement contraire à cette idée du Front républicain. On ne peut pas passer son temps à taper sur la droite ou taper sur la gauche, et puis au moment des élections, dire aux électeurs, ben, non là, on va se rassembler, parce que vous voyez, il y a les méchants du Front National là qui nous menacent. Non, c'est quelque chose de totalement contradictoire. Il faut vraiment réfléchir là aussi à cette contradiction institutionnelle.
Donc ce que vous nous dites, c'est qu'il n'y a jamais eu aussi un Front républicain homogène, mais qu'il y a toujours eu des fronts républicains ou des fronts de circonstances.
Les fronts républicains sont à géométrie variable. Alors c'est vrai qu'il y a le modèle historique de l'élection de 2002, du deuxième tour de 2002, avec cet élan républicain pour barrer la route au Front National. Mais on est dans une situation là, d'ailleurs, de bipolarité, justement, puisque c'est la quintessence du système bipolaire de la Ve République, et qui est tout à fait spécifique, hein, qui ne doit pas servir de référent pour notre vie politique.
Géométrie variable, il me semble avoir lu ça sous votre plume, Joël Gombin. Qui a piqué la formule à qui ? C'est Jean Guéret qui vient de vous la voler ?
Elle
est dans le domaine public. Non, Joël Gombin, dans les moments difficiles comme aujourd'hui, où les sondeurs placent le FN en tête, on le disait, dans trois régions, les partis appellent souvent à respecter cette tradition du Front républicain. Vous dites que le Front républicain n'a jamais été une tradition, au mieux une vieille coutume occasionnelle, que ça renvoie surtout à une mythologie plutôt qu'à un débat rationnel et factuel.
Oui, ça n'est même pas une coutume. Ça ne renvoie historiquement à rien. Jean Garrigue l'a très bien dit, tout ce qui est Front républicain, Front populaire, Concentration républicaine, tout ce que vous voulez, n'a toujours concerné que les partis de gauche. Et ça n'est que à partir de 1989, en tout cas c'est la première occurrence que j'ai pu trouver, qu'on trouve ce terme de Front républicain employé pour contrer le Front national avec la droite. Mais j'observerai que pour faire un front, il faut être deux. Enfin, au moins ou plus. Or, la proposition de Front républicain n'est toujours venue que de la gauche. Et même lorsque la droite dite républicaine s'est astreinte à une pratique de cordon sanitaire strict à partir de 1998, sous l'influence de Jacques Chirac, il ne s'agissait pas d'un Front républicain, car il ne s'agissait pas d'alliance électorale avec la gauche. Il s'agissait de dire on ne gouverne pas avec le Front national. Hein, en 1998, aux élections régionales, avec un mode de scrutin qui était différent et qui conduisait après le second tour à devoir procéder à des alliances entre ceux qui étaient élus pour gouverner les conseils régionaux. Donc de Front républicain, il n'y en a à proprement parler jamais eu. Et le précédent de 2002 que Jean Garrigue évoquait devrait tout de même faire réfléchir la gauche, car une fois que Jacques Chirac a été élu avec massivement les voix de gauche, il n'en a tiré aucune conclusion politique. Et les 10 années qui ont suivi ont été des années qui ont installé l'hégémonie intellectuel de la droite.
Donc le Front républicain peut aussi être contre-productif, à défaut de ne pas être du tout productif, ce que vous nous dites.
Oui,
Et vous dites même pire que 2002 est perçu à tort comme l'âge d'or du Front républicain.
Oui, oui, il y a vraiment un mythe au sens propre du terme qui s'est créé autour de 2002, c'est-à-dire que Jacques Chirac a été l'acteur d'une tragédie ou d'une tragicomédie qu'il n'a pas écrite, qu'il n'a pas voulu, et il a donc été le héros de la République, en quelque sorte, contre son gré.
Pierre Mathieu, pardon, ensemble, vous oubliez un petit peu ici à Paris. Je rappelle que vous êtes en duplex avec nous de France Bleu Nord, chez nos confrères à Lille. Juste une petite question. À l'origine du Front républicain, on l'entendait, il y avait l'ambition quand même de contrer la menace fasciste. Est-ce qu'on peut encore, en 2015, fonctionner avec le même logiciel que celui de 36 ou 55, ou même plus près de nous, de 2002?
Alors, d'abord, juste pour dire que je suis d'accord avec ce qui a été dit, et pour prendre 2002, finalement, on va dire que l'exception de 2002 a trop tendance à devenir une espèce de règle un peu fantasmatique, vous voyez ce que je veux dire, alors que ça a été une exception fondamentale, et en plus, qui s'est tellement mal passée après pour la gauche, qu'elle a servi plutôt de pédagogie à l'envers, en quelque sorte, pour beaucoup d'électeurs de gauche. Alors, par rapport à ce que vous dites, 36, enfin, la question que vous posez, je pense, implicitement, c'est, tout à l'heure, vous demandiez est-ce que le Front National était un parti républicain, donc, auquel cas, il pourrait être dans un Front républicain. Républicain lui-même. Et puis, d'ailleurs, ça avait été évoqué au moment de Charlie Hebdo, par exemple, hein, où l'interdiction de le FL avait demandé à participer aux manifestations proposées d'IP. Ensuite, bon, il y avait eu autre chose. Mais la question, c'est la question de, je crois, de la stratégie de Marine Le Pen et d'une stratégie qui est une stratégie d'accès au pouvoir et une stratégie entre guillemets gouvernementale qui est passée par une euphémisation d'une partie du discours classique de Le Pen père dans une optique véritablement, et c'est la grande différence entre Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen, une stratégie qui est une stratégie de conquête progressive du pouvoir qui passe par l'accumulation des trophées électoraux au fur et à mesure des années, l'accentuation du nombre d'élus, de professionnels de la politique payés pour en faire, et donc un maillage du territoire progressivement. Donc je pense que c'est ça. Aujourd'hui, ça me fait beaucoup penser à la stratégie qu'avait eu l'ex-MSI en Italie, qui était passé d'un parti post-fasciste assumant complètement l'héritage de Mussolini à un parti qui progressivement s'était intégré dans le jeu politique italien plus classique. Je pense que on en est là aujourd'hui, je crois. Et moi j'ai pas de réponse. J'ai des craintes en tant que citoyen et pas en tant que politiste, en tant que citoyen par rapport à la possible victoire de Marine Le Pen, parce que aussi ma crainte vient du fait que on a parlé un petit peu de la présidentielle tout à l'heure, Jean Garrigue en a parlé, mais il faut pas oublier non plus que la victoire de Marine Le Pen dans Nord-Pas-de-Calais Picard, mais du FN dans plusieurs régions, c'est aussi une étape de plus dans la banalisation du Front National, non pas dans son discours, dans ses propositions, mais dans sa banalisation dans le jeu politique. Hein. Et je pense que si Marine Le Pen l'emporte dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, et voire même si elle l'emporte dans le cas d'un duel en obtenant la majorité absolue des sièges, ça veut dire que la plausibilité de sa victoire dans une élection présidentielle dans laquelle il ne peut y avoir que deux candidats au deuxième tour, cette plausibilité devient de plus en plus forte.
Oui, mais ça veut dire aussi ce que ça veut dire et ce que les urnes veulent bien dire. Non, c'est la réalité.
Non mais complètement. Et on n'en a pas du tout parlé. Il reste 3 minutes. C'est que, bien entendu, on a beaucoup parlé tactique politique, positionnement des acteurs, stratégie, droite et gauche de gouvernement qui sont quand même un peu dans la panade, etc. On n'a absolument pas parlé, ou très peu, des fondements socio-économique de ce qui explique la croissance régulière des intentions de vote et du vote pour le Front National. N'oublions pas que le Front National aujourd'hui est le parti qui dispose des électeurs les plus fidèles d'une élection à une autre et des électeurs qui aujourd'hui, ce qui est très différent de la période de Le Pen père, expriment un vote en expliquant qu'ils souhaitent que le parti pour lequel ils votent, le FN, soit au pouvoir, accède au pouvoir, ce qui est une différence fondamentale par rapport à ce qui se passait jusque il y a 5-6 ans. Donc on est là-dedans, et je crois qu'effectivement, l'accroissement du vote pour le Front National a d'abord comme base, non pas, à mon avis, le fait que les partis de gouvernement jouent mal, se comportent mal, ont une mauvaise stratégie électorale, mais d'abord parce que les politiques gouvernementales, droite ou gauche, depuis 10 ans, échouent complètement et adressent des messages très négatifs aux électeurs.
Joël Gombin, Jean Garrigue, le mot de la fin, on a bien entendu ce que nous disait Pierre Mathieu. Vous venez aussi de nous dire que pas d'âge d'or, limite pas d'histoire pour le Front Républicain et qu'il n'y a que le Parti Socialiste aujourd'hui pour tenter de la réécrire un peu cette histoire. Est-ce qu'en revanche, est-ce que vous pensez que le Front Républicain a encore un avenir à l'heure où le Front National multiplie quand même les succès électoraux? Joël Gombin.
Je pense en tout cas que le débat autour du Front Républicain a un avenir radieux et que nous serons amenés à en reparler dans les années qui viennent, oui.
Jean Garrigue.
Moi, je pense que la stratégie d'incantation qui a fonctionné très longtemps dans la gauche française depuis le 19e siècle, et notamment au moment du Front Populaire, ne peut plus fonctionner aujourd'hui. Et donc, le Front Républicain est une coquille vide, même si on va continuer à en parler longtemps.
Et vous avez quelque chose pour le remplacer?
Oui, ça s'appelle le débat et la réflexion de fond et la démolition de manière systématique de l'argumentaire du Front National. Et là, je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire.
Au micro, il y avait ce soir Jean Garrigue, Joël Gombin et Pierre Mathieu. Merci beaucoup à tous les trois. Je voulais rappeler, Joël Gombin, le titre de cet ouvrage collectif qui vient de paraître, Les faux semblants du Front National, sociologie d'un parti politique qui décrypte aussi des parties du programme du Front National. De quoi? C'est le dernier livre paru. Il rassemble un grand nombre de chercheurs qui ont une grande habitude de travailler sur ce sujet. On retrouve Nona Meyer, on retrouve Nicolas Lebourg, on retrouve, aidez-moi, il y en a beaucoup, tellement, oui.
voilà. C'est exactement.
Un must-read.
Vous parlez, dites-nous ça en français. À lire absolument. Merci beaucoup à la réalisation Olivier Guérin, à la préparation Mathias Mégy, à la technique ce soir. Il y avait Élise Leu et également nos confrères qui nous ont permis ce duplex avec vous, Pierre Mathiot. Merci beaucoup à France Bleu Nord de nous avoir ouvert leurs portes un dimanche. Dimanche et après, c'est fini pour aujourd'hui, mais l'émission est disponible au téléchargement pendant plus d'un an sur franceculture.fr. Vous pouvez également nous laisser vos commentaires, vos humeurs du dimanche. Merci à tous, très belle semaine et rendez-vous dimanche prochain.